Chapitre 8. Première visite. Après déjeuner, Simplicie, voyant que sa tante s'apprêtait à reprendre son violon, lui demanda la permission d'aller voir ses amis avec sa bonne. « Tes amis? Quels amis as-tu ici ? Mademoiselle de Roubier et bien d'autres que je vois à la campagne. Va, va, ma fille, fais ce que tu voudras. Je ne suis pas un tyran, moi, j'aime la liberté. Boginski, nous allons faire de la musique pendant une heure ou deux. Vous, Tsos, vous allez accompagner Simplicie avec Prude, et vous prendrez garde à ne pas laisser recommencer les sottises d'hier. Madame Bombec, c'est pas ma faute à moi, ces robes drôles et manières et tout. Messieurs, regardez, rire, gamins moquer et courir. Mamselle Simplette doit pas mettre robe comme hier. Ah, c'est pour ça. Attendez, j'y vais, moi, et je vais la faire habiller comme il faut. » Madame Bombec se dirigea comme une flèche vers la chambre où Simplicie achevait de boutonner sa robe de satin marron. « Qu'est-ce que c'est que cette toilette, mademoiselle? Êtes-vous folle? Allez-vous vous faire suivre et huer, comme hier, par tous les polissons des rues? Ôtez-moi cela. Prude, enlève cela et habille-la devant moi. » « Mais ma tante... »« Il n'y a pas de mais, tu vas défaire cette robe et en mettre une autre tout de suite, devant moi. » « Mamselle n'a pas de robe plus simple, madame, c'est sa moins belle. » « Comment diable t'as ton nippée? Ça a-t-il du bon sens? Mets ta robe de voyage si tu n'en as pas d'autre. Prude a de l'argent. Demain, elle t'en achètera une avec croque-mitaine, mais je ne veux pas que tu sortes parée comme une chasse. »« Ma tante, tout le monde s'habille comme cela. » »« Personne, petite sotte, personne. Vas-tu m'en remontrer à moi, qui habite Paris depuis 50 ans, sans en bouger ?»« Je vous en prie, ma tante, laissez-moi mettre ma robe aujourd'hui seulement pour aller chez mes amis. » Pour te faire insulter comme hier? Non, non, 100 fois non. J'irai en voiture, ma tante, il n'y aura pas de danger puisqu'on ne me verra pas. En voiture, vas-y si tu veux. Sois ridicule, fais-toi moquer dans les salons si cela te fait plaisir, mais ne circule pas dans les rues, entends-tu bien? Non, ma tante, je ne marcherai pas, bien sûr. Ha ha ha, quelle figure tu as! C'est à rire, en vérité. Ma sœur a perdu la cervelle pour t'avoir affublée de ces vieux oripeaux.
Simplicie était fort choquée de voir sa tante rire de ce qu'elle croyait si beau et si enviable. Mais elle n'osa pas le témoigner et acheva de s'habiller pendant que Madame Bombec appelait Tsos pour aller chercher un fiacre.
« Allez vite, mon ami Tsos, courez chercher un fiacre pour Simplette et Prude. Vous les accompagnerez car elles n'y entendent rien. On les mènerait aux abattoirs ou aux jardins turcs sans qu'elles puissent s'expliquer. »
Tsos expédiait vite les commissions. Il fut bientôt de retour. Simplicie était prête, Prudence attendait. Elles montèrent dans le fiacre, Tsos s'assit à côté du cocher, Prudence donna l'adresse de Mademoiselle de Roubier et la voiture roula dans les beaux quartiers de Paris, les boulevards, la place de la Concorde et le faubourg Saint-Germain. Clara et Marthe demeuraient dans la rue de Grenelle. Le fiacre s'arrêta à la porte du 91. Tsos descendit, ouvrit la portière et fit descendre Prudence et Simplicie. Il les mena chez le concierge où elles demandèrent Mademoiselle de Roubier. « Au premier, en face, » répondit le concierge. Elles allaient monter, suivies de Tsos, quand le cocher de fiacre courut après eux.
« Eh, bourgeois, dites donc, et ma course ?»« On paiera quand seront revenues les dames, » dit Tsos Rugebrolevski. « Ah, mais non, dites donc, bourgeois, vous ne m'avez pas pris à l'heure, vous me devez la course, 1,50 franc. »
Tsos commença une dispute sérieuse avec le cocher. Prudence s'en mêla pour ne pas abandonner son ami dans le danger. Les gros mots se faisaient déjà entendre. Le cocher jurait comme un templier. Tsos fit voir qu'il connaissait très bien ce genre de langage. Prudence, effrayée, allait de l'un à l'autre sans avoir l'idée de terminer ce combat de langue en payant au cocher la somme qu'il demandait. Les fenêtres commençaient à se garnir de têtes lorsque le concierge, jaloux de l'honneur de la maison, parvint à glisser dans l'oreille de Prudence. « Payez-lui ses 30 sous, tout sera fini. »«
Tenez, monsieur le cocher, voilà votre argent. Prenez, je vous en prie, prenez !»
s'empressa de dire Prudence en lui tendant 2 pièces d'argent. Le cocher ne se le fit pas dire 2 fois. Il prit ses 30 sous et s'en alla en grommelant. Le concierge rentra dans sa loge, non sans avoir jeté un regard étonné sur la toilette de Simplicie et de Prudence. Elles montèrent l'escalier. Tsos, faisant l'office de domestique, ouvrit, dit au valet de chambre d'annoncer Simplicie et resta dans l'antichambre avec Prudence. Simplici entra donc seul chez Clara et Marthe, qui s'amusaient à faire des fleurs avec leurs amies, Élisabeth, Valentine, Marguerite et Sophie. La toilette éclatante et ridicule de Simplici causa un étonnement général. On la regardait sans parler. Simplici fut un peu embarrassée de ces marques de surprise. Elle sentit pour la première fois qu'elle était ridicule, ce qui lui donna un malaise si visible que Clara s'en aperçut et en eut pitié. « Bonjour, Simplici !» lui dit Clara en s'avançant vers elle et en lui prenant la main. « Vous voilà donc à Paris. Depuis quand? Êtes-vous venue avec votre maman? Est-elle au salon, chez maman ?»« Non, » répondit Simplici avec un embarras croissant. « Maman est restée à Gargilliers. » « Vous êtes donc seule avec votre papa ?» reprit Marthe. « Non, » répondit Simplici plus bas encore. « Papa est resté à Gargilliers. » « Comment et pourquoi alors êtes-vous à Paris ?» s'écrièrent les enfants. Simplici ne savait que répondre. Là encore, elle commençait à voir le tort qu'elle avait eu. Elle ne savait comment expliquer son voyage et elle se taisait, roulant son mouchoir entre ses doigts, tenant les yeux baissés, commençant un mot puis un autre. Enfin, elle eut la pensée de mettre son voyage sur le dos de sa tante. « Ma tante ne nous connaissait pas, elle désirait nous voir. On nous a envoyés chez elle avec ma bonne Prudence. » « Je vous plains, pauvre Simplici, » dit Marguerite. « C'est un grand chagrin pour vous d'être séparée de votre maman et de votre papa. »« Pourquoi avez-vous accepté ?» demanda Sophie. « Il fallait dire à votre maman que vous ne vouliez pas, on ne vous aurait pas envoyé de force. » C'est que, Innocent et moi, nous avions envie de voir Paris. » Les enfants la regardèrent avec surprise et, malgré le silence qu'elles gardèrent toutes, Simplici devina sans peine que ce silence même était un blâme, que ces demoiselles trouvaient qu'elle avait eu tort et que si elle ne le lui disait pas, c'était par politesse. « Asseyez-vous donc, Simplici, » lui dit enfin Clara. « Voyez les jolies fleurs que nous faisons. Vous pourrez nous aider en coupant les bandes de papier vert, en arrangeant les queues, les boutons, les feuilles. » Après avoir travaillé quelque temps, Simplici leur demanda. « Comment avez-vous pu faire ces jolies fleurs toutes seules ?»« Nous avons eu une maîtresse de fleurs, » répondit Marthe. « Où donc en avez-vous trouvé une ?»« Dans tous les magasins de fleurs, il y a des demoiselles qui viennent donner des leçons, » dit Sophie. « C'est charmant, on trouve de tout à Paris. À la campagne, il n'y a rien de tout cela. » « Oui, mais à la campagne, on vit bien plus à l'aise, » dit Marguerite. On est bien plus avec ses parents. Tu dois penser que Simplici ne tient pas beaucoup à voir ses parents, dit Sophie, puisqu'elle a mieux aimé venir chez sa tante. Pourquoi dis-tu cela, Sophie? Dit Clara. Ses parents lui ont probablement ordonné de partir. Est-ce vrai, Simplici? Demanda Sophie. Est-ce que vous auriez mieux aimé rester chez vous? Simplici rougit, balbutia et ne savait comment répondre sans trop mentir lorsque Tsozr Gebrolowski vint l'attirer d'embarras en entr'ouvrant la porte. Il passa sa grosse tête rousse et fit signe du doigt à Simplici de venir. Et comme Simplici ne répondait pas à son appel, il entra son corps à moitié au grand ébahissement des enfants et fit. « Psst, psst, mamselle, faut venir tout de suite, Madame Prude demande venir. Madame Bombec grondait si mamselle restait longtemps. » Les enfants, surpris et un peu troublés d'abord, partirent d'un éclat de rire qui rassura Tsoz. Il entra tout à fait. Les enfants, le prenant pour un fou, se mirent à crier. Simplici était honteuse et désolée. Tsoz avançait toujours en souriant. Les enfants reculèrent jusqu'au coin le plus éloigné de la chambre en continuant à appeler leur bonne. Deux autres portes s'ouvrirent. La bonne de Clara et de Marthe entra par l'une, pendant que Prudence apparaissait par l'autre. La bonne, voyant cet homme roux, à longs cheveux, à moustache et à barbiche, crut que c'était un voleur et appela au secours de toute la force de ses poumons. Deux domestiques accoururent et, partageant l'erreur de la bonne, se jetèrent sur Tsoz, qui se débattait en criant. « Moi, Polonais, moi pas faire mal, moi chercher fiacre !» « Moi, ami de Madame Bombec, lâchez, lâchez! Polonais mauvais en colère! Moi, tu es beaucoup de Russes à Ostrolenka !» Plus il parlait et plus les domestiques tenaient à s'assurer de ce fou dangereux. Il l'avait saisi, le tenait fortement et s'apprêtait à l'emmener quand Prudence, s'élançant à son secours, cria aux domestiques. « Arrêtez, messieurs, c'est notre ami, notre sauveur! C'est Monsieur Tsoz, brave Polonais!
Il a accompagné Mademoiselle Simplicie. Il nous a protégés en voyage. Il a jeté par la fenêtre le méchant chien qui nous a mangé notre veau. Il nous a emmenés dans une auberge. Il nous suit partout. Il est très bon, je vous assure. »
La bonne, qui comprenait enfin son erreur, dit au domestique de laisser aller le Polonais. Tsoz avait ses habits en désordre. Le nœud de sa cravate était à la nuque, ses cheveux étaient ébouriffés. Il arrangeait ses vêtements, ses cheveux, sa cravate, tout en marmottant.
« Moi, Polonais, moi, tu es russe, moi, chercher voiture, moi, appeler Mademoiselle Simplicie. Moi, pas content, moi, dire à Madame Bombec. »
Simplicie, rouge et humiliée, restait muette et immobile. Les enfants, que la bonne avait calmés et qui comprenaient la méprise, cherchèrent à leur tour à rassurer Simplicie. Clara et Marthe lui proposèrent de venir les voir le soir pour passer plus de temps ensemble. Sophie et Marguerite lui firent leurs excuses de la scène qui venait d'avoir lieu et firent si bien que Simplicie crut que le tort venait d'elle et non de Tsoz. Simplicie reprit son air satisfait et s'en alla en promettant de revenir. Quand elles furent parties, les enfants furent pris d'un fou rire et toutes quatre se roulèrent sur les canapés en riant à suffoquer. La bonne partagea leur accès de gaieté.
« Quelle drôle de visite nous avons eue là !» s'écria enfin Marguerite. « Et quelle toilette ridicule avait Simplicie !» dit Sophie. « Et quelle figure a cet homme roux qui l'accompagne ?» ajouta Marthe. « J'ai eu peur tout de bon !» dit Clara. « J'ai réellement cru que c'était un fou !» « Si du moins Simplicie avait dit quelque chose pour nous rassurer !» dit Marguerite. « Elle restait muette comme un poisson !»« C'est que la pauvre fille était honteuse !» dit Clara. « Il était ridicule !»« Pourquoi l'as-tu engagée à venir le soir, Clara ?» demanda Sophie. « Elle nous ennuiera horriblement !»« Parce qu'elle était si embarrassée qu'elle m'a fait pitié. Puisqu'on l'engageait à revenir, elle a dû croire que nous ne la trouvions ni ridicule ni ennuyeuse. » »« Tu as bien de la charité, » dit Sophie. « Je ne l'aurais pas engagée, moi. » »« Tu aurais fait comme moi si tu avais vu combien la pauvre fille était honteuse de son Polonais et de sa bonne. » »« C'est bien fait. Cela lui apprendra à quitter ses parents pour venir s'amuser à Paris et nous ennuyer de ses visites. » « Ce n'est pas bien ce que tu dis, ma petite Sophie. Ses parents l'ont probablement obligée à venir voir sa tante. » « Laisse donc, comme c'est probable, envoyer sa fille à Paris malgré elle. Je ne crois pas cela, moi. »«
Crois ce que tu voudras, mais ne le dis pas, » dit Clara.
« Ce qui veut dire que tu crois tout comme moi, mais que par bonté tu fais semblant de croire le contraire. » « Et quand cela serait, Sophie, c'est d'autant plus beau à Clara et tu ne devrais pas la taquiner là-dessus, » dit Marguerite. « Je te prie, toi, de ne pas me prêcher. Tes sermons me mettent toujours en colère. »«
Parce que je dis vrai et que tu n'as rien à répondre, ma belle amie. »«
Parce que vous avez le talent d'impatienter, mademoiselle, et que vous parlez sans savoir ce que vous dites comme une corneille qui abat des noix. »« Où, mademoiselle, a-t-elle entendu des corneilles parler ? » ?»« Laisse-moi tranquille, tu m'ennuies. »
Marguerite allait répliquer, mais Clara et Marthe l'engagèrent à ne pas continuer la dispute. Elles en dirent autant à Sophie. Une fois apaisée, elle se mit à rire et embrassa affectueusement Marguerite qui venait se jeter à son cou. Les enfants racontèrent à leur maman la visite de Simplicie et leur terreur mal fondée. Sophie compléta le récit imparfait de ses amis en décrivant la toilette de Simplicie, en blâmant son séjour à Paris, en riant de la figure et du langage du Polonais et de Prudence. Madame de Roubier mit fin à son caquet en lui reprochant son peu d'indulgence. Elle trouva pourtant que l'invitation de Clara était un peu trop charitable.